Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec,
la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
Bon mercredi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Et aujourd'hui, on a une belle émission. On va parler de la 9e édition de la Journée de l'emploi avec Dave Beaulieu un petit peu plus tard. Et on va parler aussi avec le chum Louis-Maxime un petit peu plus tard aussi dans l'émission. Changer de job, changer de défi. Et on va débuter l'émission avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà croisé, que vous connaissez peut-être le visage, il vous a peut-être déjà sauvé, on ne sait pas. C'est Luc Sergery qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, Luc.
Bonjour, Benoît. Bonjour, tout le monde.
Luc, pour ceux qui ne te connaissent pas, ton travail, c'est d'être un ambulancier dans le parc des Laurentides.
C'est ça. Non, ouais, ambulancier paramédic, c'est important parce que on va créer des frictions, surtout au niveau des collègues.
Ouais. Les codes de travail, hein, ou la classification de travail.
C'est ça.
Mais là, ça veut dire, dans le parc, est-ce que t'es affecté, tu pars le matin puis tu travailles, ou t'es plusieurs jours en poste, comment ça marche?
C'est un horaire exceptionnel, ça devait être aboli au début de 1990. Il s'agit d'un horaire de faction.
Mon Dieu.
Oui.
C'est pas changé aujourd'hui?
Non. Non.
Il y avait la. Cet horaire-là?
OK. Je fais une légère historique, c'est que on a fait notre première vraie convention collective en 1988.
Okay.
C'était le boom pour lancer le professionnalisme du travail, du métier.
Oui.
À l'époque, on n'a rien qu'à penser à pas si longtemps, en 88, même dans les années 80, il y avait des horaires 14-21. Les gens étaient partis 14 jours en caserne ou whatever, puis ils étaient 7 jours en congé.
OK.
Après, parce qu'on a eu un bassin de suicides, on a eu un bassin de tout ça associé à ces types d'horaires-là. Des gens qui ont perdu leur famille parce que les madames étaient tannées, sont partis, ou vice-versa. Puis après
14
ça.
14 jours, c'est quelque chose.
Ouais,
là.
C'est ça. On n'a qu'à penser. Il y avait quelques horaires comme ça à Mont-Laurier pour me rappeler.
Okay.
Il y en avait d'autres ailleurs au Saguenay, mais c'est ça. Puis après ça, ils ont décidé que temporairement, à partir de 88, qu'ils allaient faire une étude pour éliminer l'horaire de faction qui est aujourd'hui maintenant à 7-14, c'est-à-dire qu'on fait 7 jours là-bas, en caserne ou peu importe le territoire où on couvre, et on fait 7 jours de congé.
Quand même, hein?
Oui.
Mais toi, en plus, chauffer des trucks.
Ouais, ben c'est ça, c'est que, bon, je dois être un TDAH qui a jamais été diagnostiqué.
Tu dois avoir des contacts qui pourraient peut-être essayer de trouver un diagnostic à ça.
C'est
mais
sûr,
quand même.
Ça peut être la fléchette de curare, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est que j'ai, en fait, c'est que c'est à cause de ma madame que j'ai repris ma classe 1.
OK.
Parce qu'au départ, elle était propriétaire d'une petite ferme de produits bio.
OK.
Toujours une promesse de conduite, c'est-à-dire que ses achats était promis, puis ça s'en allait en Californie. Tu sais, c'était c'était nature, puis c'était de la culture bio. On a qu'à passer au kale, au persil, nommelet.
Oui.
Fait que c'est de la grosse verdure. Fait qu'à un moment donné, il était un peu comme exaspéré par le chauffeur. Je te dis pas qu'il était un mauvais chauffeur, mais il bousculait la cargaison, puis elle a dit un matin,
c'est terminé.
Elle a explosé, puis elle a dit, tu vas refaire ta classe 1, j'ai besoin d'un deuxième chauffeur qui est peut-être moins violent. Puis elle savait un peu...
Qui va prendre soin de mes...
C'est ça, de ces caisses de plans qui a été récupéré avec misère, puis tout ça.
Ouais.
Puis c'était pour conduire ça soit pas loin des lignes américaines ou dans un transit dans la région de Montréal qui s'en allait pour les États-Unis.
Okay.
Fait que c'était un peu ça. Il y avait des entrepôts, on a qu'à penser à Bec Sucré, qui est une grosse industrie.
Ouais.
Bon, c'est une industrie de transit américaine. Fait que tous les produits qui sortent d'ici sont transités là souvent, puis après ça, ils sont acheminés selon le marché aux États-Unis.
OK.
Ensuite de ça, ben c'est ça. Ça faisait 31 ans que j'avais pas chauffé une vanne. J'avais commencé sur la Côte-Nord, on a qu'à le nommer, c'est Sacré-Cœur dans le comté de Saguenay.
Oui.
À l'époque, c'était pour remplacer une personne malade, puis à l'époque, c'était très facile de devenir chauffeur.
C'était quand même facile.
C'était genre un samedi puis un dimanche. Bon, tu maîtrises bien la mécanique, t'arraches pas les poteaux sur les coins de rue.
On te veut.
C'est ça. Tu pars demain à Québec pour aller chercher pour aller chercher une cargaison.
Oui.
Puis bon, il y avait divers centres de dépôt, puis je récupérais ça. Puis j'avais un permis temporaire.
Quand même.
Puis j'étais toujours
tu
en
pouvais place. Conduire permis temporaire.
Ouais.
OK.
C'était ben tu sais, supposamment que...
C'était mon watché, peut-être.
Ouais, mais en tout cas, c'était comme des reconnaissances d'acquis alors que je les avais pas acquis, là.
OK.
C'était vraiment, il m'a dit, tu as du potentiel, je te ramasse, puis c'est la confiance qui règne. Et je me suis jamais fait autant peur dans ces premiers mois-là. On parlait de la prudence sur une autre émission, là, sur une de vos émissions, puis c'est ouais. ça. J'étais plus que prudent. À vrai dire, j'étais complètement mémère sur le chemin. Après ça, c'est, je suis devenu avec un peu d'expérience. Mais j'ai pas voulu garder cette classe 1 quand j'ai fini par l'acquérir pour vrai.
Okay.
Bon, je me mariais, j'avais des enfants, j'avais une autre vie, puis j'étais toujours paramédique, là. Après okay. toutes ces années.
OK.
Puis c'est pour ça puis j'avais quitté mon
bled. Est-ce que le paramédic a pris le dessus sur le camionnage ou tu restes encore derrière un volant de temps en temps?
Je suis toujours là, j'ai toujours ma classe 1, je travaille quand même pour une entreprise qui est quand même qui a une bonne réputation, là, Transport Bernière à Québec.
T'es avec mon chum Pierre Labrie.
Ben oui, monsieur Labrie. Oui. Je le vois pas souvent, mais je le vois plus souvent, je pense, dans les médias que je le vois dans
Il est partout, personne. Pierre.
Ouais, il est comme Jésus, il est partout.
Ouais, puis il peut nous bénir de temps en temps.
Je lui dis bonjour en passant. Fait que c'est ça, c'est un climat de confiance.
Ouais.
Bon, à l'époque, c'est Monsieur Brochu qui me faisait, dans le fond, l'examen d'embauche, tout ça. Puis, je sais pas, on s'est regardé dans les yeux, ça a cliqué, j'ai confiance. Puis, je devais avoir un petit test routier. Puis, finalement, un coup que tout a été fait, trois jours après, j'étais parti de la Côte-Nord.
Tabarnouche, ça a bien été.
Parce que je suis originaire de la Côte-Nord. Et okay. dire, on va élimer là-dessus.
Ben oui.
Au départ, je m'attendais à des petits trônes, genre Québec-Montréal, ouais. puis aller transiter d'un...
Let's go d'un
cours à l'autre. Ouais, c'est ça. Mais non, tu t'en vas sur la Côte-Nord, tu t'en vas chez vous.
Ben oui. On va aller faire Baie-Saint-Paul dans la Côte.
Exact, les caps.
Pas faire Boucané-Bray.
Exact, les caps, puis c'est ça.
C'était le bon vieux temps.
C'était en plein hiver, en plus. Là, ouais. fait que,
mais tu fais-tu quelques kilomètres par année en camion, ou là, c'est plus le paramédic qui prend le dessus?
Je fais en moyenne. Là, vois-tu, aujourd'hui, je suis dans mes 7 jours, comme on dit, de congé.
Off.
Normalement, si j'aurais pas vu, par exemple, là, je suis allé à ma clinique dentaire et tout ça, j'aurais pas eu tous ces petites nick-nacks-là, venir à votre studio, j'aurais probablement mis ma disponibilité pour faire 3 ou 4 jours.
Okay.
Ma conjointe actuelle, parce que j'ai divorcé entre-temps, ma conjointe actuelle, de toute façon, on se voit pas la semaine. Elle est ingénieure agronome, elle travaille dans une méga compagnie de canneberge dans la région de Manceau. Puis, à ce moment-là, on se voit pas vraiment.
Okay.
Elle vient le soir, oui, c'est correct, on soupe ensemble et tout ça. Mais c'est pas une très grosse rencontre. Elle est fatiguée de sa journée. Moi, je suis comme en congé, puis je fous rien. Fait que là, je pourrais faire...
Faut avoir du temps de qualité aussi dans une vie de couple.
Fait que c'est ça. Fait que je garde l'ultime fin de semaine avec elle, parce que sur un 7 jours, 14 jours, on le sait, je suis une fin de semaine au travail comme paramédic, mais l'autre fin de semaine, j'aimerais ça être avec elle.
Mais comment tu réussis tu sais, parce que c'est 7 jours, une semaine sur deux, dans le fond, où tu peux faire une vie un peu plus normale. Comment tu réussis?
Explication, c'est que là, je suis en fin de carrière. Le 21 février prochain, ça va faire 44 ans que je fais de l'ambulance. Ça veut dire que techniquement, il me resterait 12 mois, mais en réalité, il va m'en rester 18.
Dans le fond.
C'est que je vais terminer probablement juillet-août 2026. C'est à déterminer. Je suis justement dans les papiers. Je suis en train d'analyser ça. Ça va être ma fin de vie très utile, parce que c'est ça. Puis c'est un peu la complication. Fait que quand je fais mon 7 jours dans le parc, ne vous en faites pas. Je ne fais en moyenne que plus ou moins 150 appels par année. OK?
Pas plus que ça.
Parce qu'on est deux équipes.
OK, je comprends.
OK, dans mon 7 jours, moi, je
fais à peu près 300 appels par année?
À peu près.
OK.
OK, il y a des pics plus que d'autres. Il y en a d'autres que c'est des appels inutiles, mais on n'a pas le choix d'y répondre. C'est souvent parce que on le sait que c'est un TNO, territoire non organisé, sur ce rayon-là. On a 400 kilomètres à couvrir. Là. On est hors piste aussi, là.
OK. On jase-tu de Stoneham aller jusqu'à l'entrée à l'intérieur?
En gros, c'est le territoire, on le sait que, bon, les amis camionneurs et camionneuses, on le sait qu'ils vont marcher avec le kilomètre aussi.
Oui.
Alors, nous autres, on couvre du kilomètre 88, kilomètre 84 jusqu'au 188 vers le Saguenay.
Ça fait du kilomètre à parcourir.
Exact. Puis on couvre le petit parc, c'est-à-dire la 169. Du kilomètre 0 jusqu'au kilomètre 27, c'est Mont-Apica qui est vis-à-vis. Ouais. Il y a le centre de Voiré au kilomètre 26. Fait qu'on couvre ça. Ça arrive à quelques fois qu'on déborde ce petit parc-là parce que, bon, il y a Ambulance Métabetchouane puis tout ça qui couvre ce bout-là, mais des fois, ils nous demandent de peut-être couvrir un autre événement parce que les autres sont partis déjà sur un appel.
Okay.
Fait que ça se peut qu'on déborde, qu'on s'en aille au kilomètre 32, 45. Fait qu'on couvre énormément. Puis, l'étape, c'est juste l'étape, mais partout dans ça, ils sont en train de réaménager la forêt. Alors, j'ai trois chantiers actifs en saison.
Faut que tu couvres les chemins forestiers.
Exact. Il y a des accidents de travail, il y a des accidents de parcours. Tu sais, ils sortent quand même du bois avec des vannes.
Ouais.
Il y a des pêcheurs, il y a des villégiateurs. C'est que durant l'hiver, on est à peu près une centaine sur le territoire, mais l'été, ça peut aller jusqu'à 5000. Là.
Mais comment je fais pour t'expliquer, Luc, ou tu sais, j'appelle, je fais le 911.
Ouais.
Je peux pas te dire le chemin que je suis. Je suis d'un chemin forestier qui exact. Porte peut-être même pas de nom. Je fais quoi dans ce temps-là? Je donne une coordonnée GPS? Ou...
Ça pourrait être ça, mais dites-vous bien qu'il n'y a pas de réseau souvent pour le cellulaire. OK?
Ouais, des fois, c'est satellite.
C'est
fois.
Ça. À ce moment-là, si, par exemple, vous vous enregistrez au CEPAC pour aller, par exemple, sur une villégiature de pêche, bien, il y a des routes forestières enregistrées. Fait que, comme par exemple, ce qui est du côté est de la route, alors c'est des routes impaires, puis ce qui est du côté ouest, c'est-à-dire vers Québec, vers Montréal, ben ça, c'est des routes qui sont paires. Exemple, la route 16, qui est le chemin Launière, qui est une route en importance, c'est très actif, et il y a son amont, c'est-à-dire à partir du petit parc par la 169 au kilomètre 4.5, il y a la 18, qui, elle, monte. On peut aller jusqu'à Rivière-à-Pierre par là. On peut aller jusqu'à Saint-Raymond aussi.
Okay.
C'est des routes qui sont longues. Puis les forêts sont rasées parce qu'elles sont en réaménagement.
Ouais. Ouais.
Ils sortent le bon bois. Le reste, il est comme passé en chip.
Mais je dis quoi si je suis poigné là? Puis peu importe, je me suis blessé. Ou
alors, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est gardez vos coordonnées. Remarquez où vous rentrez. Si vous rentrez sur la route 16, la route 18, je peux vous les nommer. Il y en a plein. C'est à partir de là. Ou la concession d'un lac. Si vous êtes au lac Simard, ben moi, je sais où ce que c'est. J'ai une immense map à ma caserne.
T'es capable de retrouver ça.
Je suis capable de trouver le site.
Je suis en motoneige, dans le milieu de nowhere.
Oui.
Je peux même pas te dire sur quelle route que je suis. Je peux même pas te dire dans quel coin du parc je suis. Comment je fais pour dire à la centrale, je sais pas, tu peux pas dire, je sais pas. Là. Puis c'est nerf, des fois, ça se peut que tu te dises. Là.
Ouais.
Mais faut trouver le moyen de se retrouver.
Exact. Puis c'est le problème, c'est qu'il manque peut-être un peu d'éducation. L'autre affaire aussi, il y a quand même des nouveaux logiciels qui marchent, comme on dit, sur la boussole du téléphone.
Okay.
Il n'y a pas nécessairement de réseau. Je vous donne un exemple, parce qu'il y en a plusieurs. Nous autres, on est branchés à Gaïa. OK? Ça coûte zéro. À moins que vous vouliez des spécificités à Gaïa.
Okay.
Ça coûte zéro. On peut l'installer, on peut le télécharger dans notre cellulaire et ça devient comme notre boussole, notre map. Puis, vous pouvez enregistrer toutes vos routes là-dessus.
Sans réseau.
Exact.
Okay.
Vous partez l'enregistrement, vous le mettez dans votre poche, puis vous faites votre chemin.
Okay.
Si, par exemple, vous êtes perdu d'une tempête, ben on paye sur GoTo, puis vous revenez au point de départ. Puis
je comprends.
Bon, ben, c'est ça que j'effectue. Ça, c'était une idée d'un de mes confrères. Là, je pense à mon ami Gaétan qui a pensé à ça.
Okay.
Qui est un collègue de la relève, dans le fond, parce que quand je travaille pas, il y a quand même une autre équipe, qui a pensé de mettre ça en service sur tous nos systèmes qu'on a dans l'ambulance et sur nos téléphones. On l'a.
Fait qu'on sait où ce qu'on est. Parce que est-ce que quand la centrale vous appelle ou vous dites bon ben j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide à tel endroit, est-ce qu'ils vous envoient une coordonnée, est-ce qu'ils vous envoient
Eux autres sont vraiment aveugles. C'est plate à dire, puis c'est méchant à dire en même temps, ils sont aveugles. Parce que souvent ils nous placent une carte d'appel, des fois ça peut être non fondé.
Okay.
Nous autres c'est de se démerder avec les infos qu'on a. Je vous cacherai pas que quand ça dit TNO, ça dit territoire non organisé. C'est qu'il n'y a pas de policiers sur place.
Okay.
Ceux qui se déplacent du Saguenay ou de Québec. Ou s'il y a
Parce dans ta caserne, il y a zéro policier à l'étape.
Non.
Il n'y a pas un char qui est.
Ah, oui, il y en a qui patrouillent, mais après de certaines heures le soir, on les voit plus.
C'est terminé.
C'est ça.
OK.
OK, on les voit de jour, on les voit un peu.
C'est des gens de Québec qui montent ou des gens du lac qui descendent ou.
L'étape n'est pas au centre, n'est pas vraiment au centre du territoire.
Ouais.
Fait que souvent, c'est Québec qui vient là. De temps en temps, le Saguenay vient licher le territoire, mais ça reste comme une chasse gardée pour Québec.
Okay.
Le point zéro, c'est le kilomètre 156. Okay. Alors, je peux déterminer si je vais au Saguenay pour une personne blessée ou malade ou vice-versa. C'est-à-dire, si je suis en bas du 156, ça se peut que je détermine aussi si je vais vers Québec.
Parce que tu vas faire le transport.
Ouais.
T'es-tu en ambulance ou t'es en une espèce de SUV paramédic? C'est quoi le véhicule que vous avez?
Non, on a Stoneham. Les pompiers de Stoneham sont quand même pour un service hors route, pour un niveau de sauvetage. Mais ils ont une limite territoriale parce qu'ils peuvent pas vraiment tout couvrir.
Oui.
Ils ont toute mon estime parce que ça fait 2-3 plans de sauvetage qu'on fait ensemble, puis je suis content qu'ils soient là. Avant ça, on n'avait rien. Il y avait les anciens groupes d'un club motoneigiste qui s'appelait les Sapins d'Or, qui venait de Beauport, dans la région de Québec.
Oui.
Eux autres, ils nous ont fourni une slée. On l'a encore, ça fait 20 ans qu'on l'a.
Ils sont aussi proches de Mont-Saint-Anne, si je ne m'abuse, dans ces secteurs-là.
Puis, quand on avait un pépin de sauvetage à faire, on les appelait, c'était deux bénévoles. Ils venaient avec le flotte de skido, ils pinaient la fameuse slée et on partait à l'aventure avec eux autres. Puis maintenant, bon... Comme tout le monde, mais moi le premier, on vieillit. Alors, il y en a plusieurs qui ont lâché prise. La SLE reste inerte à notre caserne.
Okay.
Elle va servir, ça a déjà arrivé dans le passé, des autres équipes pour m'en avoir raconté des aventures. C'est que souvent, ils allaient à l'étape, ils demandaient des volontaires avec un skidoo relativement fort pour tirer une SLE. 90 % du temps, les gens donnaient le clé. Ils disent, moi, je veux pas voir de sang. Ils disent, je te passe mon skidoo.
À ce point-là.
Puis tu partiras avec ton coéquipier.
OK.
OK. Les procédures ont changé avec le temps. On peut pas dire, c'est le même principe qu'un module lunaire. C'est que tu peux pas abandonner le véhicule. Fait qu'à ce moment-là, le coéquipier qui est désigné pour aller en sauvetage part, mettons, avec le groupe sauvetage.
Oui.
Après ça, le véhicule, parce que le point de chute peut être ailleurs. Si, par exemple, c'est sa route 16, il va dire non, ça va être modifié, on va aller sur la route 18, on est plus proche. Fait que le point de chute, fait que le véhicule se déplace en fonction des besoins.
OK. Mais c'est tout un défi, des fois, que d'aller chercher des personnes, surtout dans un parc comme ça qui est immense.
Oui.
Conditions météo qui sont, disons, c'est un microclimat qu'il y a dans le parc.
Oui, c'est typique.
Peut neiger à plein ciel.
C'est
puis
pas pour rien qu'il y a eu une base militaire à Mont-Apica. C'était vraiment... C'est austère, c'est difficile.
Ouais.
Pendant que vous, il fait beau là-bas, nous autres, on est en pleine poudrerie.
Mais si tu montes en haut du mont Apica où les antennes et tout ça, là, c'est vraiment un autre monde. Là, ces antennes-là sont pactées de glace, de neige, de toutes sortes d'affaires. Tu descends en bas, tu vas au relais, puis c'est un monde différent. Il y a une différence de degré entre les deux.
Absolument.
Aussi, là,
absolument. Pour l'avoir grimpé quelques fois.
Oui.
Puis c'est ça. Puis ma grande crainte quand j'ai pris le poste, parce que je suis venu temps plein en 2018, en 2016, n'écoutant que mon professionnalisme, je me suis loué une motoneige.
OK.
Je voulais voir le territoire tel qu'il est. Fait que j'ai dit, au moins, je ne parlerai pas au travers de mon chapeau. Je vais avoir une connaissance
de ça. Tu vas savoir de quoi tu parles.
Fait que je me suis payé une excursion 3 jours.
OK.
En motoneige. J'ai fait toutes les coursives, les relais. Maintenant, il s'est rajouté des relais. Il n'y en avait presque pas dans le temps. Puis, l'été ensuite, j'ai pris un 4 roues et j'ai fait du 4 roues pendant 3 jours dans ce territoire-là.
Okay.
C'est comme ça que j'ai pu me faire, dans le fond, une mémoire.
Meilleure idée aussi du terrain.
C'est ça.
Est-ce que quand on va préparer une épicerie, bon, on disait tantôt qu'il faut la prévoir d'avance, faut prévoir ses jours d'avance.
Oui.
Mais est-ce que tu te payes la traite aux petites saucisses du parc de temps en temps?
Oui, quand le moral est bas, je me console la vie avec ça.
C'est un comfort food, hein?
Absolument.
Je pense qu'ils font fortune juste avec ça.
Oui, au début, c'était à l'époque... Dans le fond, ça a commencé à cause de la pandémie. Le restaurant était fermé. Ouais. Gros problème d'hygiène qui disait. Puis on le sait, là, les critères étaient tellement sévères.
Ouais.
Comment faire pour débuter, dans le fond, le congélateur qui est plein à craquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des rumaki. Les rumaki, c'est les fameuses petites saucisses dans le bacon.
Oui.
Fait qu'ils ont fait ça, ça a commencé. C'était pour, dans le fond, accommoder motoneigistes qui arrivaient gelés. Pas moyen de manger autre que des friandises, parce qu'on sait que c'est une place à bonbons là-bas.
Oui.
Puis à Cossin. Fait qu'ils ont commencé avec ça. Mais maudit, ça a devenu une popularité. j'ai parlé, je parle aux commis souvent, ils me connaissent, là, je suis comme la mascotte dans le bout là, tout comme les autres. Puis ils m'expliquaient qu'ils vendent entre 5 à 6 000 bouchées par jour.
Facile.
Ça, c'est en plein dans le temps, là, il fait froid, il y a beaucoup de motoneigistes, ils se vendent en moyenne 5 à 6 000 petites bouchées. L'été, ça diminue, mais il y en a tout autant, là, 3 ou 4 000 peut-être.
Le même commis que je dois avoir parlé, à un moment donné, je pense que ça fait comme, je dis, ça fait-tu longtemps? Il dit, ça fait comme une heure qu'on les a préparés,
c'est ça.
Qu'on les a mis dans le four. Je dis, ça doit sortir. Il dit, on a 1500 déjà de passé.
Puis c'est ça.
En une heure.
Ah oui. Puis ils sont faits d'une institution. Ils ont été obligés de faire un agrandissement derrière les comptoirs. Bon. Ouais. Puis parce que le restaurant, à une certaine heure, il ferme. Mais eux autres, ils produisent encore de ces bouchées-là.
Ouais.
Puis il y a des fourneaux, puis tout. Puis ils ont des distributeurs directs. Puis, tu sais, pour en tout cas, la matière première. Puis il y a des gens, là, ça a créé de l'emploi sans le vouloir, cette affaire-là. Puis,
c'est... Mais moi, j'ai un chum qui s'appelle le millionnaire de Plessisville. C'est son surnom, je ne sais pas son nom. Mais lui, je pense qu'il consomme, je ne sais pas combien de gallons de soupe à gourgane. Parce que c'est un mets typiquement...
C'est bon, la soupe au gourgane.
Lui, beurré de beurre, de la soupe au gallon. Il se ramène toujours plein de gallons parce que...
Oui.
Ces mêmes saucisses-là peuvent être achetées...
Congelées. Prêtes à réchauffer ou pas cuites du tout.
Ouais.
Et la soupe au gourgane, la sauce, tu sais, il y a plein de choses.
Il y a plein d'affaires.
Ouais.
Puis je me demande même si c'est pas un arrêt obligatoire que d'arrêter à ce fameux dépanneur-restaurant ou en tout cas arrêt de l'étape, là, tu sais.
Sais-tu? C'est la vessie qui domine. Fait qu'ils savent que, un peu plus loin, je pourrais pas être à chaleur puis me laver les mains. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, il y en a, j'ai du gaz en masse. Moi, je vais arrêter quand même aux toilettes, mais finalement, ils sortent avec tout le temps un produit.
Oui.
Fait que, il faut ça de Nathan.
Oui, effectivement, mais c'est un arrêt, effectivement, obligatoire. Puis le millionnaire me répond, il dit, effectivement, je suis dû pour aller en chercher encore quelques gallons. Fait que, je vais être là en fin de semaine, je pourrais y en descendre quelques gallons, mais c'est vrai. Puis là, ça veut dire que, comment est-ce qu'on décide, disons, où j'emmène le patient? Parce que, bon, tantôt, tu disais le point zéro, il est à 156.
Au kilomètre 156.
Bon, 156, ça, c'est le neutre du...
C'est vraiment le point zéro.
Oui.
Écoute, ça dépend de... Tu sais, on a des critères à nous autres. On le sait, là, on est géré par plein de monde. Ça peut être un... Mettons, ça va avec la stabilité du patient. Ça, on le sait. Si le patient est instable, il est polytraumatisé, ça se peut qu'on décide d'aller au plus court. Puis souvent, il nous répond pas. Si tu vas pogner un blessé... En fonction d'une spécialité, mettons une blessure à une jambe, ben, c'est pas nécessairement une blessure au cerveau. T'sais, c'est des choses comme ça.
Même game.
Fait que là, à ce moment-là, on peut déterminer si le dossier est plus lourd d'un côté ou de l'autre du parc. C'est-à-dire que s'il est plus connu au Saguenay, même si on est un petit peu plus du côté de Québec, à plus ou moins 10 km, je peux décider d'emmener cette personne-là. Il va avoir probablement plus de services, il va avoir sa famille, il va avoir la commodité.
Oui.
Mais il faut qu'il soit stable. Il faut qu'il me garantisse hors de tout doute qu'il est stable. C'est-à-dire qu'il est capable de me répondre à des questions simples.
Un AVC, une crise cardiaque, ça peut être très urgent d'amener le patient.
C'est ça. Puis si la spécialité est à Québec, c'est même si je fais 10 km de plus, je vais plutôt proposer Québec parce que ça va être mieux pour sa survie et sa santé.
Oui.
C'est séquelles.
Oui. Mais est-ce que tu as déjà eu des histoires du genre un accouchement ou tu sais quelque chose où faut que tu fasses que t'as pas le choix là, la décision elle se prend là puis advienne que pourra rendu là.
Pas dans le parc là. Je pense que le monde est plus prévoyant qu'il était, mais dans les débuts de ma carrière, oui, j'en ai fait quelques-uns dans mon bled là, justement au Saguenay dans le bout de Sacré-Cœur, j'en ai fait quelques-uns puis c'était des touristes étrangers, c'était pas vraiment du monde tu sais de chez nous mais tu sais.
Des fois, il n'avait pas pensé à ça.
Non, il n'avait pas pensé à ça. J'ai même vu un accro de la pêche. Il était dans une pourvoirie chez nous avec sa madame qui était à 4 ou 5 semaines d'accoucher. Puis là, veux pas, là, tu fais une heure de pick-up. Comme on dit, ça aide à placer le bébé. Puis là, il nous appelle en CB relais parce qu'on parle du CB.
En CB relais, c'est quoi ça?
OK. Un CB relais, on sait qu'il y a une limite de portance au niveau d'un CB.
Oui.
La pourvoirie se tenait justement dans le chantier forestier qui était occupé par la Boissaco aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la Samoco.
Oui.
Puis, Rexfort. Fait que souvent, il y avait des camps ouverts, peut-être à toutes les 10 000.
Okay.
Fait qu'à ce moment-là, il se faisait des cibirelais. On avait un bon docteur de famille qui s'appelle le docteur Tremblay. Okay. J'ai son âme, il a sauvé tellement de monde, ce monsieur-là. Puis à ce moment-là, j'avais des instructions en cibi-relais. C'était le principe du téléphone arabe. Des fois, c'était pas tout à fait précis.
Parce qu'on n'avait pas une portée tellement longue, exact. Mais quelqu'un entendait le signal, le relayait un autre, puis exact. L'autre, vous le relayez.
Puis le cibi, on l'avait dans l'ambulance, sur la Côte-Nord.
OK.
On l'avait encore, on l'a eu...
Est-ce que vous l'avez à l'étape aussi?
On l'a pu.
OK. Y a-t-il une raison pourquoi qu'ils l'ont enlevé?
Ils ont changé de véhicule, oui. Okay. Après ça, deuxième des choses, à l'époque... On communiquait avec les amis camionneurs. Fait que des fois, quand on à l'époque où on rencontrait la 175, on se le dit là, c'est, on est en chaussée séparée depuis 2009.
Oui.
Mais avant ça, quand on rencontrait, ben on parlait au body qui était en avant nous autres. Puis j'ai dit quand tu pourras, fais-moi signe. Puis il me disait.
Je vais te dépasser.
Ouais, je vais te dépasser. Puis le mané dit c'est clear. Fait que là, nous autres, on décolle à l'aveugle. On est dans une courbe, mais lui il a vu bien avant moi. Oui. Fait qu'à ce moment-là, c'était comme ça qu'on pouvait avancer vers les soins puis plus rapidement pour l'intervention.
C'est une autoroute, c'est moins pire un peu.
Exact. Mais c'est ça. Ça pourrait servir encore, surtout des places éloignées. Je sais que les camionneurs dans le bois, ils ont tous le cibi allumé.
C'est une décision administrative?
Non. C'est qu'il aurait fallu peut-être les inculquer le besoin. Okay. À un moment donné, on en avait un qui était comme portatif. À un moment donné, ils ont changé de véhicule parce qu'eux pas, on use des véhicules-là. Puis il n'a jamais été réinstallé. On l'a dans une boîte, là, puis il traîne là, sur une tablette à l'étape, mais c'est ça peut être rien pantoute à installer, mais c'est pas ma décision.
Ça vient pas de toi.
Ouais, c'est ça.
Quand on passe séjour là-bas, c'est quoi? Avez-vous un genre de dortoir? Avez-vous, c'est-tu comme une caserne de pompiers où vous avez un petit peu de luxe, la TV, quelque chose?
Oui, on a...
Puis est-ce que t'es 24 heures sur 24 en service?
Oui, absolument.
T'es 24 heures sur 24 en service?
Oui. Puis bien sûr, après...
Tu te couches quand?
Quand à un moment donné, on lui dit que ça déborde. Explication. Okay. D'un, la caserne, c'est la maison chez vous. Au départ, c'était plutôt minimaliste. Même en 2012, il parlait de fermer Patrouille Secours, qui est nos bons voisins, nos premiers répondants du ministère des Transports. Maintenant, ils ont installé une super caserne à 5 millions de dollars pièce avec deux camions tout neufs.
Okay.
C'est vraiment la coche.
Y a-tu des pompiers là à temps plein?
Oui.
Ou? OK.
Ben, c'est des pompiers. Ah, c'est des premiers répondants, mais de bonne qualité. Ils peuvent, ils s'occupent strictement de la route, malheureusement. Ils peuvent se rendre en mode hors route, mais c'est genre, excuse-moi, c'est genre 10 km d'un côté ou 10 km de l'autre de la route.
Je comprends.
Passer ça, ils nous envoient la main, puis bonne chance.
Je comprends.
C'est ça. Les autres, ils ne couvrent que la route. Puis de toute façon, le tâche primaire, c'est d'éliminer les dangers, c'est-à-dire que s'il y a des débris, tout ça, que ce soit pour les moteurs, puis les véhicules, tout ça. Après ça, le tertiaire, c'est-à-dire nous autres, là, la zone, ils ont toute priorité. Là, à ce moment-là, on les appelle, ils s'en viennent avec nous, parce qu'il peut avoir un véhicule à couper un morceau pour sortir quelqu'un, puis des choses comme ça. Puis ils font les premiers soins, comme on dit, vrac. C'est-à-dire, des fois, on est déjà sur une intervention. Si on réussit à se libérer pour aller les rejoindre, ben eux autres, ils peuvent répondre à plusieurs appels en même temps.
Mais règle générale, est-ce que tu es capable de passer une nuit de 6, 7, 8 heures?
Oh oui.
Ou c'est plutôt rare parce que le nombre d'appels vient...
Ben, les tempêtes des derniers jours m'ont permis de me dire que je dormais pas beaucoup.
Oui.
Oui, ça arrive. On a, dans le fond, on a une procédure sur la convention collective qui dit, à des fins de risque, de toute façon, on tombe pratiquement sur le code routier présentement, c'est que dès qu'on fait un 16 heures en ligne, là, on fait un signal de débordement. Okay. Un signal de débordement, c'est, dans le fond, c'est un effectif qui va partir de Québec, prendre la relève 8 heures pendant qu'on dort.
Fait que ça, ils restent dans le stationne, mettons à l'étape.
C'est ça, ils peuvent...
Mangent les saucisses.
Exact.
OK.
Ils peuvent venir à la caserne, s'asseoir et écouter la télé.
OK.
Puis, il n'y a pas de problème, nous autres, on est couchés, on dort.
OK.
Puis, 8 heures plus tard, on devient disponible à nouveau, eux autres, ils redescendent à Québec. Puis,
est-ce que ça arrive, t'es obligé de dépasser de 16 heures puis de 30 à 22, 23, 24 heures de
ça a déjà arrivé. Okay. Quelquefois. Mais là, c'est plutôt rare.
Même dans les tempêtes des derniers jours?
Oui.
OK.
Oui, ça a déjà arrivé parce que des veux pas, il y a très peu de premiers répondants.
Oui.
Des fois, patrouille secours s'en vont à l'extrême du parc.
Oui.
Puis moi, ben, parce qu'ils sont occupés, ben, ils vont comme switcher l'appel pour qu'on y aille vérifier quasiment à leur place.
Okay.
Mais en même temps, ça reste, c'est des blessés potentiels. Fait qu'on y répond tous.
OK.
On laisse personne. On laisse même pas un chien, là. On pourrait avoir perdu des chiens dans des accidents, on les a retrouvés, il y a des systèmes de pièges, tout ça, ben, des pièges et des cages avec de la nourriture puis de l'eau, puis ils finissent par se coucher là, puis il y a des marqueurs satellites qui disent, bon,
Il y a quelqu'un dans la cage.
C'est ça. Ça peut être un raton, mais ça peut être un chien aussi. Okay?
C'est quoi le principal accident qu'on peut retrouver dans le parc? Est-ce que c'est une sortie de route, puis là, bon, on s'est blessé parce que le véhicule a peut-être fait des tonneaux? Les orignaux, ben, je sais qu'on a mis beaucoup de clôtures.
Ouais.
Chevreuil aussi, mais c'est-tu aussi les gens qui s'endorment?
C'est ça. Il faut pas oublier là qu'on pense que, dans le fond, l'étape, c'est en altitude. Alors, le monde manque un peu d'oxygène. Souvent, le monde dit « Ah, on n'est pas si sensible à ça du manque d'oxygène. » Mais 0,5 de 1% d'oxygène peut vous faire bien relaxer. Vous avez ceux qui ont déjà pris l'avion, là, qui écoutent en onde, là. Mais c'est pas dur. Et eux autres, ils commencent à pressuriser l'avion comme si tu étais à 5 ou 6 000 pieds d'altitude.
OK.
À ce moment-là, tu es pas mal plus relax que si tu étais au plancher de la mer. Là, t'es oxygéné, t'as du gaz, t'as hâte d'arriver en vacances. Mais c'est bizarre, quand t'es dans un avion, tu relaxes.
On dort.
C'est un peu le vœu pieux de ça. C'est on va contrôler un peu nos passagers. C'est comme ça. Mais c'est le même principe à l'étape.
Okay.
T'as fait une grosse journée, je sais pas, tu travailles au Saguenay. À un moment donné, bon, je vais aller rejoindre ma blonde à Québec.
Oui.
Ils roulent, ils montent en altitude, ils montent en altitude. Finalement, ils se sentent comme gazés, puis on les retrouve à une altitude quand même plus haute, là, dans les alentours du 178. C'est vraiment le pot total, c'est 906 mètres, si je me rappelle bien. À 906 mètres, là, il te manque presque 1% d'oxygène. C'est bizarre, ils s'endorment, puis ils finissent tous dans le terre-plein central.
C'est-tu souvent à peu près au même spot?
Oui. Dès que j'entends.
Dans le même demi-kilomètre,
exact.
Mettons?
Quand j'entends le kilométrage, ça, c'est un endormitoire au volant. On arrive là, le véhicule est dans la chaussée centrale. Ben, il est dans le terre-plein central, puis ça descend comme un escalier. Fait que ça ralentit le véhicule, puis il finit tout le temps à la troisième marche.
OK. Fait que dans ce temps-là, il y a moins de risques de blessures.
Exact. Il se réveille, puis bon, il est en maudit, il n'y a plus d'eau sur son char, mais il est sauf.
Oui.
C'est un peu ça.
Fait que dans le fond, c'est peut-être un des pires cas. Les camionneurs, comment est-ce qu'ils se comportent dans le parc?
Eh mon Dieu.
La vérité. On a-tu des gens?
Moi, je suis camionneur, moi je peux pas y traîner. OK. Ça dépend, je vais te dire franchement, ça dépend de ceux qui maîtrisent la région. C'est bête à dire, c'est ça.
OK.
Je n'irai pas dire une population en particulier, rien. Je peux te jurer que ceux que, par exemple, pour X raisons, ils ont des véhicules débarrés, alors qu'on est barré à 100, puis d'autres à 105.
Ouais.
À ce moment-là, ceux-là, ils ont toute ma confiance, puis je les vois pratiquement pas en cas d'accident.
Okay.
Souvent, si on parle de la saison hivernale présentement, je m'excuse, là, cher camionneur, mais ce qui arrive, c'est qu'on a un mauvais déneigeur dans une certaine zone, puis ils ne sont plus capables de monter les côtes qui montaient couramment.
Okay.
On a entre autres une côte qu'on l'appelle la courbe magique du 107. Tous les véhicules, les gros fardiers restent pris là.
Okay.
Puis c'était un peu le problème. Puis il y a eu d'ailleurs un gros accident il y a 3 semaines à peine, là. On parle du début février.
Ouais.
Il y avait eu un gros blizzard, puis il y avait eu un carambolage. Puis c'est à cause de deux vannes. Il y a une vanne qui a resté prise. Il n'a pas été capable de monter. Il a peut-être mis ses locks un peu tard.
Ouais.
Puis il a resté pris sur le skid de la courbe du 107. Et le deuxième, lui, était sur un élan. C'est parfait, je file mon chemin.
Il l'a pas vu.
Il l'a vu, mais il a comme décéléré trop vite.
Okay.
Il a fini côte à côte sans rien briser.
Okay.
Sauf que là, ça a empilé des véhicules dans le trou qu'on appelle le trou du lac des Roches,
ouais,
qui se situe entre le 106 et le 107.
Ouais.
Fait que les vannes ont commencé à rentrer, puis ça a fait un jeu de quilles. Il y a même eu un blessé grave. Ça n'a pas été médiatisé parce que c'était l'autre équipe. Il était débordé d'ouvrage. Il y a même un véhicule une vanne qui a télescopé un véhicule flambe en neuf de patrouille secours.
Ah,
ça
oui.
Les a coûté une boîte, là.
Okay.
Il va être réparable, là, mais c'est ça. Puis il y avait 5 ou 6 vannes, mais avant qu'ils se calent, peut-être, je sais pas.
Ouais.
Là, ce qui a manqué aussi, c'est qu'il a manqué de signalisation en amont de l'accident. Résultat, il y avait un gars, un bon samaritain, qui avait commencé à pelleter une madame pour qu'elle puisse se remettre dans l'axe parce qu'elle avait planté dans une falaise.
Okay.
Fait que lui, il avait mis son char en mode sécurité. Il avait commencé à pelleter. Puis c'est une vanne qui vient de l'Ontario, qui a télescopé le véhicule, puis il s'est fait rouler dessus par son véhicule. Fait qu'il y a eu des blessures majeures au bas du corps. Pas pour atteindre à sa vie, mais disons qu'il va avoir une très longue convalescence.
Y arrive-tu des accidents où ça vous affecte comme paramédic, tu sais, peut-être des enfants ou tu sais où tu te dis mon Dieu, puis je veux avoir de l'information, je voudrais savoir est-ce qu'il s'en est sorti, tout ça.
Oui, c'est un peu le cul-de-sac de notre job. On est transporteur, on se le cachera pas. Oui, ouais. On administre des soins le plus avancé possible en fonction de la compétence, bien sûr, puis les droits de loi qui sont là-dessus.
Ouais.
On va faire le maximum parce qu'on est des pères de famille. On est des mères de famille. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais pas que mon fils soit là-dedans. Je voudrais pas que ma fille soit comme ça. Fait qu'on fait le maximum. Ça nous affecte. Ça a l'air de rien, mais ça nous affecte parce qu'après ça, on le rend à l'hôpital. Il est mort. Il a survécu. Mais on n'a pas de nouvelles après. C'est un peu la grande tristesse de notre... C'est comme je te dis, c'est cul-de-sac. Fait qu'il y en a d'autres, par exemple, qu'il y a des médecins que, veut pas, on s'est fait des connaissances avec les années, on finit par avoir des nouvelles. Puis, tu sais, il mettra pas de détails, là, mais tu sais, il va nous dire, ben, monsieur,
good news,
la madame...
Vous avez fait votre job comme du monde.
C'est puis... ça, il s'est rétabli, ouais. On a donné le maximum, puis il va s'en sortir très bien. La convalescence est plus longue, mais il s'en sort bien.
OK.
Je suis désolé.
Non, non, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que des fois, tu sais, ça, dans le sens où tu te dis, je pense qu'il, même si on le rend au centre hospitalier, je suis pas sûr qu'il va survivre à ça, puis que des fois, tu as une bonne nouvelle d'un médecin qui te dit, vous avez fait les manœuvres nécessaires vous l'avez sauvé.
Oui.
Tu sais, combien de vies dans ta carrière tu pourrais dire que tu as sauvé? Est-ce que c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines, tu sais, en 40 quelques années?
Oui, il y a des optiques de divers employeurs qui disent tout le temps, même si on faisait un transfert, ils disent, va dire une autre vie de sauver. C'est leur philosophie. Mais dans le fond, c'est monnaie pour le transport. Dans mon cas personnel à moi, je peux vous dire là, que ça se résume à peu près les doigts et demi d'une main.
Okay.
Parce qu'à l'époque... il y a eu des réformes au niveau de divers systèmes, comme par exemple la RCR, qui était très banale dans le temps. On sauvait personne. Ils ont découvert avec le temps que si on pompait plus vite, un petit peu plus longtemps dans le temps, au lieu de faire les fameuses 15 compressions, par exemple, pour deux insufflations d'air, ben à ce moment-là, le cœur se préchargeait, mais au moment où on administrait l'air, il se déchargeait. Fait que la résultante, on réanimait personne. Dans cet épisode-là, j'en ai réanimé trois, mais à l'époque, on avait des médecins sur la route. On avait Télémédic à Québec, les fameux médecins sur route. Il y en a eu aussi à Montréal, il y en a eu des grands centres. Quand ils ont disparu, on ne réanimait plus personne parce que la mosus de réforme n'était pas faite. Quand l'association
mais
de
maladies... Mais pourquoi tu dis on réanimait plus personne? T'étais...
Dans le sens qu'il fallait respecter la procédure niveau des réanimations.
Ouais.
C'était géré par l'Association canadienne des maladies du cœur et de l'AVC maintenant. Et à l'époque, c'était 80 compressions, puis bon, c'est dans le fond, on faisait du 15-2. Quand on était seul, c'était du 32. Ils ont découvert que, je veux dire, aujourd'hui, on fait du 32. Ils ont découvert que plus on masse longtemps et rapidement, plus on garde la circulation active.
Okay.
T'administres pas d'air, c'est pas grave. Le sang, il brasse, puis on a des chances.
Mais tu compresses, là, ça fait circuler.
Exact.
OK.
Fait que c'est comme ça qu'à un moment donné, dans cet épisode-là, quand la réforme s'est faite, au début, dans le milieu des années 2000, là, genre 2005, peut-être un petit peu avant, ben moi, j'ai rattrapé le même ratio en très peu de temps pour réanimer des gens, rien que par cette procédure-là. C'est simple. C'est pour ça que des fois, je préconise tout le temps un sauveteur par famille, c'est-à-dire... Allez faire votre cours d'RCR, vous pouvez sauver un proche. Puis je dis tout le temps, tu sais, ils disent tout le temps, je fais-tu la bonne affaire? Non, faites-le croche, faites-le droite, mais faites-le. En attendant que les services arrivent, tu sais.
Bien, en entreprise, ils nous obligent, la CNESST, à le faire. Fait que nous autres, on fait la rotation des employés. Ça veut dire que qui ne l'a pas fait, bien, on l'envoie justement en RCR.
C'est ça.
À un moment donné, tout le monde le sait, là. Ça change pas de technique à toutes les ans.
Non.
Il y a peut-être une amélioration, des fois,
ou
une technique
mais
différente.
La mise à jour est bonne. En fait, ils ont mis la mise à jour sur la technologie, c'est-à-dire les fameux DA, les défibrillateurs automatiques. Ils ont simplifié ça à sa plus simple expression.
Ouais.
Maintenant, Pierre-Jean-Jacques, qui parle en français ou en anglais, ben, il reçoit les instructions de l'appareil.
Ouais.
Fait que si t'es pas sûr de tes moves, la machine va te dire tout quoi faire. Puis, that's it. Nous autres, on est habitués, on dépasse le texte, là, on les prend, puis le monde est surpris. Ouais, mais t'as pas écouté le texte, j'ai pas besoin de l'écouter, j'ai besoin de masser.
Ta pire histoire en carrière, celle que tu veux oublier, que t'aimerais peut-être moins avoir retenue d'une belle carrière de 40 quelques années.
Hey my God. J'en ai au moins 5. Puis la platitude, c'est que c'était des... dans le fond, c'était des enquêtes du coroner qui a mal tourné.
Okay.
Puis il accusait toujours le pion. C'est-à-dire, moi, le paramédic, avec mon collègue, je veux pas vraiment sortir de titre, parce qu'il y a encore quand même du monde en vie aujourd'hui là-dessus.
Okay.
Puis ça avait mal tourné, bon, et parce que d'un, j'avais peut-être pas une bonne attitude vis-à-vis eux autres, mais en même temps, j'avais fait le travail qu'ils m'ont demandé de faire.
OK.
Fait que ils peuvent pas me dire que j'ai assassiné du monde, j'ai fait le maximum. Sauf que ça a mal paru vis-à-vis les médias, ça a mal paru au
on
niveau...
On t'a accusé ou...
Non, on m'a pas accusé. Quand tu fais une enquête du coroner, il va savoir la cause du décès d'une personne X. Okay. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vise? Ben là, ils analysent tout. Par exemple, nos radios, ben ils sont enregistrés. Fait qu'ils écoutent la conversation. Puis tu sais, des fois, c'est des mauvaises journées. Puis
oh oui. Bon, ça arrive à tout le monde.
C'est ça. Là, ça se peut que je vais sabler un peu trop à leur goût. Puis c'est pas. Fait que là, ils ont décidé par jugement que j'étais un mauvais paramédic, que j'étais pas professionnel, mais c'est les ondes. Fait qu'on se parle entre nous autres.
C'est juste sur le CB.
C'est un exemple. Ouais, c'est un exemple. Tu sais. À ce moment-là, mais au niveau du travail, de l'opération, du temps réponse, j'étais dans un critère, ils pouvaient pas me reprocher rien.
Puis le sauvetage en tant que tel.
Exact.
Ici.
Okay. C'est ça.
Juste basé sur une conversation de cible.
Exact. Okay. J'en ai eu cinq.
L'habit fait pas le moine, comme on dit.
C'est ça. Parce que tu peux, tu sais, on en regarde des fois dans des films d'Hollywood, là.
Ouais.
Ils sont vulgaires, tout ça, mais c'est pas ça, la réalité.
Ouais.
Fait que ça peut arriver une journée qu'on déborde, mais sans dire un sac ou quoi que ce soit, c'est que le texte est comme toxique pour eux autres. Puis là, ça les agace. Puis là, ils ont décidé qu'ils faisaient un pion. Mais finalement, pour découvrir que, dans le fond, c'est une panacée de circonstances autour de la victime qui a fait en sorte que cette personne-là a pas pu s'en sortir. C'est pas juste Luc Sergery qui a invectivé ces gens de la centrale. C'est pas les Luc Sergery qui a omis de faire des soins. On les a fait. Même si on savait que... Si même si dans le fond les pathologistes, le coroner dit il était mort de toute façon. Donc j'avais fait le maximum, mais il était mort de toute façon.
T'sais, mais tu pouvais pas le ramener.
Mais c'est ça. Il nous accuse.
C'est quand qu'on dit, tu sais, tu vois un patient,
oui,
je peux plus le ramener. Mais comment que c'est quoi le déclic? Puis ça doit être difficile des fois de prendre cette décision là. Je veux continuer de le masser, mais
il y a des procédures.
Il reviendra pas. Là.
Il y a des procédures qui nous disent qu'on peut pas arrêter. Il y a d'autres procédures qui peuvent nous dire on peut arrêter.
Okay.
Tu sais, c'est un exemple là, c'est très vague. Tu peux avoir une mort nébuleuse. C'est que là, toi tu vas faire une épicerie, tu reviens, je sais pas, une heure plus tard, ta conjointe est au sol. Ça c'est nébuleux. Es-tu tombé au bout de 30 secondes, tu sois parti, ou juste ça fait 30 secondes qu'elle vient de perdre conscience. Fait que c'est des choses comme ça. Fait que ça se peut qu'on fasse des cessations de manœuvre.
Okay.
C'est à déterminer. Mais on lui donne toujours sa chance.
Okay.
Puis ça va être par exemple, les voies respiratoires. Fait que si on est capable d'administrer de l'air, donc on est capable de réanimer. Parce que c'est souvent ça qui arrive, qui fait notre premier signe. Mais il y en a d'autres.
Mais tu sais, ça pourrait être une crise cardiaque.
Absolument.
Et puis, comment tu masserais pendant 10 heures?
Ça va rien donner, on va lui donner sa chance. On se rend à l'hôpital, c'est souvent le médecin qui va dire « c'est assez ».
Qui, lui, va prendre une décision.
Heure du décès, puis ça termine là.
Est-ce que le transport, tu masses continuellement, t'essayes continuellement, puis
Le moniteur, le moniteur défibrillateur, si, par exemple, nous autres, c'est un système tout technologique, fait que quand le RIP est défibrillable, à ce moment-là, la machine va dire, tu sais, par exemple, ne bougez plus.
Ouais.
Fait que là, on immobilise le véhicule. Puis si lui détecte un RIP défibrillable, excusez-moi, à ce moment-là, l'appareil va se charger automatiquement. C'est moi qui va décider si je pèse sur le piton ou pas.
Okay.
Mais souvent, on va peser sur le piton, puis on continue le massage. Puis
tu
on
donnes poursuit. Toutes les chances, dans
absolument,
le fond.
Absolument, absolument.
Ta plus belle histoire, parce qu'on t'a demandé à payer, mais la plus belle histoire en carrière, est celle que, tu sais, t'en es fier.
Et qu'il y en a.
Il y en a plusieurs.
Il y en a, mais tu sais, on a été un peu, pas dénigré, mais tu sais, on n'est pas une vraie fratrie avec le temps, mais je veux dire, j'ai été comme exceptionnel. Bon, j'ai eu des cas d'incendie. On arrive avant les pompiers, puis on sort, on extrait des gens.
C'est toi qui sors du véhicule, la personne?
C'est ça. Non, mais des fois, c'est du véhicule, mais des fois, c'est dans une maison. J'ai quand même travaillé 37 ans à Québec.
Ouais.
On a eu des cas d'incendie, puis on sortait des gens vivants,
brûlés,
mais vivants. Puis parce que les pompiers n'étaient pas sur place. Puis ils arrivaient dans la seconde ou dans la minute, mais tu sais, ils sont nettement plus vite que nous autres, là, la plupart du temps. Mais dans un pur circonstance, un hasard, c'est ça que j'ai aimé le plus. Parce que
j'ai sorti ces gens-là.
Exact. Parce qu'on n'a pas le critère de sauvetage. On est dans le ministère des Transports, on n'est pas à sécurité civile. C'est pas notre job.
Okay.
Fait que c'est pour ça que...
Est-ce qu'on parle dans ce temps-là du héros du jour ou tu sais...
Oui, mais là, c'est entre nous autres. Mais bon, les pompiers...
Mais est-ce que des fois, la personne que t'as sortie... tente de te rejoindre par tous les moyens. Hey, Luc, merci, merci.
Oui, c'est arrivé à quelques reprises. Il envoie des cartes de remerciement. Des fois, j'ai eu C'est une affaire un peu glauque. Une dame qui a découvert son monsieur pendu dans le sous-sol.
Okay.
Mais j'ai coaché la famille. J'ai resté là quand même une heure. J'étais pas obligé de transporter la personne. C'était comme une mort évidente.
Ouais.
J'ai coaché la madame. J'ai coaché les ados.
Ouais.
Puis c'est ça, il s'était suicidé. Puis à ce moment-là, j'ai coaché la famille. Et un an plus tard, j'ai reçu une carte avec une carte de la SAC. C'était pas la récompense comme telle, c'était la carte qui m'a fait pleurer dans le fond.
Okay.
Parce que la madame a dit que je l'avais touchée puis que j'avais su aller chercher les bons mots.
T'étais humain.
Exact.
Ouais.
Ça m'a fait quelque chose, j'ai gardé la carte. Elle m'avait donné un 20$ à sac, je m'en rappellerai toute ma vie, elle a dit prenez donc un verre à notre santé.
OK.
Fait j'ai pris je l'ai honoré, j'ai pris le verre.
Ben oui, avec raison exact. Aussi.
Puis c'était un peu ça. J'ai eu quelques petites affaires comme ça. Un enfant de 7 ans appelle le 911. Sa mère est dans le coma. Finalement, elle est diabétique. Ça a pris un peu de temps à savoir. On l'hospitalise.
Oui.
C'est tout à fait banal. Elle va s'en sortir. Bon, ils vont y administrer ce qu'il faut, pis tout ça. À l'époque, j'aurais pu me faire accrocher par le DPJ, mais on peut s'en parler 35 ans plus tard.
Oui.
C'est que la petite était pas de famille. Elle était accompagnée par la secrétaire de l'urgence de l'hôpital.
Okay.
Tout ça. Mais elle venait me voir parce que moi, je faisais d'autres appels entre-temps.
Oui.
Là, il arrive tard le soir. La secrétaire me dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je commence à faire des contacts. Je dis, tu vas me donner l'adresse à maman. Il dit, ben, c'est là, t'es venu la chercher après-midi.
Parce qu'elle ne sait pas, elle.
Fait que j'ai dit, OK, je vais faire une recherche du bloc.
Ouais.
Là, elle a fini par me dire, mon voisin, je vais voir mon ami, là, des fois. Tu sais, on a comme poussé notre lock là-dessus. Il aurait fallu. La police était là-dessus, mais la police n'a rien fait. Ils y ont pour le dire à l'époque, elle est en sécurité, elle est à l'hôpital.
Ouais.
Maman n'est pas loin.
Ouais.
Fait que j'étais allé voir la mère. J'ai demandé, elle était réveillée, tout allait mieux.
Okay.
Puis elle m'a expliqué, elle dit, oui, elle dit le voisin, elle dit, il n'y a pas de problème, elle dit, l'appartement, tout ça. Fait que j'ai cogné, puis j'ai dit, tu restes avec moi. Je l'ai emmené en ambulance. Puis j'ai dit, là, je cogne à la porte, c'est le père qui répond. J'ai dit, est-ce que tu connais ce monsieur-là? Elle dit, oui. Ouais, elle disait, c'est Roland, puis ça. Puis là, ben, j'ai dit, ton ami est où? Fait que là, le monsieur l'a fait apparaître, puis ça. J'ai dit, là, j'explique l'histoire du cas. Puis là, j'ai dit, je veux votre numéro de téléphone, je veux vos coordonnées. Parce que là, il faut quand même que je me mette un backup. Puis j'ai laissé la fille là. La mère a eu son congé le lendemain, fait que tout a été réglé.
Okay.
Des semaines plus tard, ça a été ma récompense. La petite m'avait fait un super dessin avec mon ambulance, avec le coco ici, peut-être en bonhomme allumette. Là. À l'époque, j'étais pas mal en allumette. Là. Aujourd'hui, ça a changé. Et j'ai été ému, là. J'ai pleuré aux larmes. J'y pense encore, puis c'est émouvant.
C'était une belle récompense.
C'était ma récompense.
Ouais.
Tu sais, ils m'ont pas donné d'argent, ils m'ont envoyé une carte
ouais.
avec un dessin plié de cette petite-là que j'ai gardé.
Ouais.
Je l'ai dans mes archives de souvenirs.
À quand un livre que tu pourrais écrire avec tous ces dessins-là?
Ça, là, j'ai une anecdote de 4 pieds d'épais.
C'est pas quelque chose qui te tenterait?
Ça, oui. C'est en train de se développer.
Ouais.
Une histoire de gaucho, OK?
OK.
On est plusieurs moniteurs de plongée parce qu'en passant, je suis moniteur de plongée sous-marine. Fait qu'on se rencontre aux Escoumins, on discute parce qu'on va certifier des jeunes puis tout ça. Puis là, ben, moi, on m'a toujours appelé l'entertainer ou le coqueloun puis tout ça parce que je suis un bon raconteur. Je suis capable de meubler l'imaginaire des gens juste de la façon que je parle. Fait que là, ils ont dit, tu vas écrire un livre sur ta carrière. Tu vas écrire un livre sur ce que tu as vécu. Il dit, t'as fait tellement de métiers parce que je dis tout le temps, l'ambulance, c'est une maîtresse qui me coûte cher parce qu'elle paye pas. Fait que j'étais toujours avec une job en parallèle. Fait qu'eux autres, ils restaient surpris. « Quoi? T'es dans les transports adaptés cette année? » Ouais. Fait que là, je faisais du minibus. La semaine, le mois de l'année d'après, « Ah, t'enseignes à l'université, la plongée? » Ben oui, j'ai eu un poste. Puis, tu sais. Fait que c'était des choses comme ça. J'ai passé ma vie à faire 2 jobs de front. Fait que demandez-vous pas aujourd'hui si je fais du camionnage. J'ai retourné à une espèce de maîtrise et de challenge et de défi.
Ouais.
Tu sais, tu pars 31 ans de ce système-là, où à l'époque, il n'y avait pas vraiment de technologie. Aujourd'hui, tout est full technologique.
Ouais.
C'est facilitant pour camionneurs, camionneuses. C'est juste au niveau du train de vie, dans le fond, c'est-à-dire des heures impossibles ou encore les aménagements pour les accommoder.
Ouais.
On sait que tu vas sur la Côte-Nord, tu vas avoir de la misère à prendre une douche. Si tu vas dans la région des villes, ben, il n'y a aucun problème.
Ouais.
Fait que c'est des choses comme
c'est
ça.
Facile.
Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps que qu'on soit ambulancier, ou paramédic, ou encore camionneur, je pense que, en tout cas, tout le monde a mon respect. parce que c'est dur. Là. C'est dur autant physiquement que moralement. Quelqu'un qui est habitué à vivre tout seul, fine. Mais quand tu arrives, tu as le défi de revenir chez vous dans des heures respectables et surtout en vie, à ce moment-là, ben c'est pour ça que je dis tout le temps, je vais faire un bout de chemin avec eux autres, mais ça veut, j'en ferai pas mon métier. Tu sais, je travaille à temps partiel chez Bernier à Québec. Ils ont toute mon estime aussi, puis ils ont une excellente équipe. Avec, ils peuvent, m'ont dit, ils peuvent me prendre par la main à distance, mais il n'y a pas de problème. Ils vont toujours, surtout M. Lavoie. Puis c'est pour ça. Fait que non, et c'est pour ça que je me disais, je fais ça, dans le fond, pour que je suis un
c'est
TDAH.
Oui,
je suis un TDAH. J'aime faire de la route parce que je faisais de l'ambulance. Je use mes véhicules à jusqu'à 355 000 km. J'ai tué un Jeep, là, j'en ai un neuf, mais. C'est ça, là. Parce que je suis mécanicien, je suis soudeur, je suis machiniste, j'ai plein de métiers en poche. Puis c'est pour ça le monde rit de moi, parce que mon vrai surnom, c'est Batman. À l'ouvrage.
Pourquoi Batman?
Ça, c'est une anecdote qui date de 92-93.
Okay.
Si vous êtes prêts pour au moins 3 minutes de raconter.
Vas-y.
OK. En gros, il y avait une réforme qui se faisait au niveau du métier de paramédic. Fait que pour se faire reconnaître sérieux, faut faire un bon rapport succinct. Un bon rapport succinct, c'est toi, par exemple, Benoît, qui est malade. Je vous présente Benoît, il y a une cinquantaine d'années. Bon, je donne la file, il est malade de ci, malade de ça. Présentement, ce soir, c'est tel problème. À l'époque, on faisait pas ça. On amenait la personne, puis on la dompait carrément comme si c'était une civière d'attente. L'infirmière au triage ou l'infirmier au triage arrivait.
Mon Dieu.
Puis là, il faisait un pré-examen. Il nous demandait jamais rien.
Du bétail.
Exact. Fait qu'il y a eu une réforme d'une soixantaine d'heures pour nous apprendre à parler aux gens, pour les mettre au courant. Okay. Parce que, veux pas, des fois, on arrivait avec beaucoup de monde, puis là, ils étaient perdus. Il y a des gens, par exemple, qui sont inconscients à cause d'un coma diabétique, qui sont en train de mourir de ça.
Non.
Mais ils sont pas capables d'expliquer leurs histoires.
Ouais.
Ils faisaient comme un détective, là, il y a pas ce problème-là. Il y a une panne de sucre, on va l'administrer du sucre, puis il va aller mieux. Tu sais, fait qu'au moins, on est capable de raconter un passé, puis ce qui se passe présentement.
Okay,
garde ça en main. Après ça, quand la réforme a été faite, ça a été fait par des médecins qui s'occupaient de nous autres, dans le fond, dans le territoire du CIUSSS de Québec. Mais il n'y avait pas tout été mis au courant.
Okay.
Et surtout les infirmiers et les infirmières trieurs. Fait que des fois, j'arrivais dans des hôpitaux. À l'époque, c'était quasiment strictement masculin. Il y avait quelques infirmières, mais c'était plus masculin. Puis en plus, ils nous snobaient parce que le carte d'identité était rétroversé. Fait que je voyais pas à qui je parlais.
Okay.
Fait que j'ai décidé qu'eux autres, là, la gang de cinglés, ce serait des Batman. Fait que là, après ça, quand j'arrivais, je parlais aux gens. Il y a une fois, j'en ai un qui m'a tellement snobé, j'ai parlé au mur. J'ai dit, le mur va m'écouter. Là, il dit, arrête de faire le cave, là. Il dit, je t'écoute, là. Bon, j'ai dit, c'était ça, je vais avoir ton attention. Je dis, bonjour, Batman, je te présente Benoît, qui est dans 50aine d'années.
J'explique. Ça, c'est drôle.
Fait que là, à ce moment-là, il dit, tu ris-tu de moi pour être un Batman? Ben, je dis, Batman, c'est un super-héros sans pouvoir. Puis j'ai dit, faut que tu sois un super-héros, fais ce job-là. Puis là, il a reviré sa carte, il a dit, moi, c'est Louis. Un autre, c'est venu, c'est Pierre.
Okay.
Puis c'est comme ça que j'ai créé un lien. Fait que je rentre dans des urgences, surtout les vieilles équipes, là, qui sont sur le bord de retraite comme moi. Là, ils me voient, hey, c'est Batman. Puis
okay.
Là,
t'es resté Batman pour raison.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Puis pour d'autres, je suis devenu MacGyver parce que j'avais tout le temps la solution A, B ou C. En voulant dire, je le sais pas, mais je vais essayer, puis ça marchait. Puis ça les insultait, là, parce que.
En terminant,
oui.
Les camionneurs ont. Ben là, t'as plus de CB pour leur parler.
J'en ai. Bernière, il y en a.
Dans Bernière, mais
oui.
Quand t'es, disons, dans le parc.
Oui.
T'es ça à 169.
Oui.
Ça rencontre, c'est pas une autoroute.
Non,
tout ça.
Absolument.
Quel message t'aurais à leur dire? Peut-être que, tu sais, pour les informer, je comprends que t'as une sirène, t'as des flashs, t'as tout, là.
Oh, oui.
Mais ça serait quoi le meilleur service qu'on pourrait te rendre quand on est camionneur puis qu'on n'a pas de CB ou que toi, tu n'as plus de CB pour leur parler?
Bon, on le sait que Star, les vannes modernes, Star, ils ont des kits de flash arrière ou avant.
Oui.
Fait qu'ils peuvent quand même me signaler leur présence comme ça. Puis j'y réponds. Je vais fermer mes flashs une fraction de seconde puis je les rallume pour dire merci.
Okay.
Ça, attendez-vous à ça. Même les, il n'y a pas juste moi, là. Toutes les autres équipes, ça marche comme ça. Même à Québec,
okay.
Même au Saguenay. Ils vont dire merci.
Okay.
Puis, c'est ça, ralentissez. On est capable de faire avec.
Je peux mettre le flasher à gauche, dire, OK, tu peux me dépasser,
exact.
Quelque chose.
Ou mettre les quatre flashs,
les quatre
ou
flashs.
Mettre à droite.
Ouais.
Baisser à droite. Ça veut
tout
dire,
tu vas catcher,
ça veut dire puis... que, ouais, on peut y aller. Okay. Puis, c'est en toute confiance.
Corridor de sécurité, es-tu respecté?
Ça dépend des jours.
Des fois où tu te fais frôler
oui.
un peu, ouais.
Ah, j'ai trois ans.
Comment ça se fait que c'est pas compris au Québec? Il y a quelque chose qui fait que.
Je sais pas, mais je veux pas être méchant. Souvent, il y a des gens qui viennent étudier de l'étranger, entre autres ouais. l'Université du Québec à Chicoutimi. Ils ont un excellent programme d'agriculture. Et qui vient de l'agriculture? Bon, il y a des gens d'Afrique, du Maroc.
Ouais.
Bon, ils viennent. C'est pas les meilleurs pour le corridor de sécurité. OK? Ouais. Je veux pas les... C'est parce qu'ils sont pas éduqués à ça. On comprend. Il y a beaucoup d'affiches, mais peut-être ça veut rien dire pour eux autres. Jusqu'au jour zéro.
Ouais.
Ça m'est arrivé quelques camionneurs parce que, d'un, il y avait eu un manque, peut-être au niveau de patrouille secours, qui a balisé pas tout à fait assez loin. Fait que okay. là, il n'y a pas le choix de venir me frotter. Parce que souvent, je mets mon véhicule en oblique pour qu'il y ait un maximum de lumière qui nous voie de très loin.
Ouais.
Même mes lumières de recherche blanche, nomme-les. Puis à ce moment-là, c'est, je peux te dire que c'est respecté au moins 95%. Mais il y a quand même quelques déviants encore aujourd'hui qui viennent nous frotter parce que soit qu'ils roulaient trop vite ou qu'ils nous voient à la dernière minute.
Message à ces gens-là, slacker. Puis si vous êtes capable même de ralentir le trafic, ça va peut-être aider à
ça
comprendre.
Aide parce qu'ils roulent vraiment vite, surtout du Saguenay. Là, les gens du Saguenay, c'est des pirates sur cette route-là. Après ça, ils se vantent que c'est les pros du parc. Mais je me dis, pourquoi je te connais maintenant, c'est heure que t'es dans le clos.
Ouais, c'est sûr. On a fait une belle rencontre. Exact. Mais si on te rencontre dans le parc, on peut aller jaser.
Absolument. Absolument. C'est un service public.
Mais on n'arrêtera pas à la caserne pour aller jaser. T'es peut-être des fois en dodo ou quelque chose comme
exact,
ça.
Exact.
Mais
il y a pas d'heure. Moi,
on va au petit restaurant de l'étape ou quelque chose.
Si vous voyez un gars en uniforme, ça se peut qu'il achète des petites saucisses. Ça se peut qu'il achète un billet de loterie. Ça se peut qu'il jase avec les commis. Parce
on peut-tu t'envoyer un bucket de saucisses à la caserne? Ils font ça à livraison. Il n'y a pas de Uber Eats là-bas.
Non, il n'y a pas de Uber Eats. Là. Ça va coûter très cher à livrer. Mais je sais que je reçois des coups de horn, puis c'est pas tout le monde que je connais. Je reste surpris. Des fois, j'étais en train de me bercer dans une grosse vitrine, puis là, je me berce. Des fois, je vois passer des motoneiges, des quatre roues. Puis des fois, j'entends un horn devant. Je dis, bon, ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Mais je regarde la compagnie. Je connais pas cette compagnie-là. Je connais pas. Mais je reçois des horns.
En mettant ton visage ici, là, il y en a qui vont te reconnaître.
Ah oui.
Puis quand il y a quelqu'un dans la chaise berçante, tire et flûte.
C'est ça.
Merci pour cette belle entrevue-là, puis continue ton excellent travail et ta passion aussi.
Oui,
puis,
il me reste peu de temps.
Il reste peu de temps, mais lâche pas, c'est vraiment quelque chose à découvrir comme métier.
Oui.
Puis ah, c'est des, continue plein de sauver des vies.
Puis j'espère éditer mon livre.
Prochainement?
En tout cas, l'année prochaine, peut-être vers la fin de ma carrière, parce que je vais avoir quand même des petites choses à parler, puis je veux pas être intimidé par mes employeurs ou ma job.
Oui, effectivement.
C'est ça.
Alors, je peux pas, merci beaucoup d'être venu en studio.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde et bonne route.
Oui, on va faire une courte pause. On va parler avec Dave Beaulieu au retour de la pause ici.
I'm preparing to cross the line. I could see the bridge was lined with bears, but it didn't have a doggone dime. I says, Pigpen, this here's a rubber duck. We just ain't going to pay no toll. So we crashed the gate doing 98. I says, let them truckers roll 10-4. Cross the island.